Le grand problème aujourd'hui, ce qui a provoqué, si vous voulez, cette difficulté politique, je crois que c'est la différence entre les deux ethnies, différence culturelle surtout. J'ai appris par exemple que avant, les Hutus n'allaient pas à l'école. L'école était réservée seulement à une petite région du sud, réservée aux Tutsis. Au nord, il n'y avait pas d'école. Et donc, pratiquement, le nord est resté analphabète. Le problème aujourd'hui, c'est que ce sont la population Hutu qui a le pouvoir. Or, ils ne sont pas préparés. D'où l'importance vraiment de développer l'éducation au nord pour que cette division puisse aussi s'effacer. Et je pense que cela pourra amener donc à plus de paix, à plus de communion.
L'éducation est donc aujourd'hui un des principaux défis à relever pour le pays.
Au moins pour la région du Nord, c'est vraiment la priorité des priorités. C'est pourquoi le gouvernement a pris comme décision de mettre tous ses efforts pour créer le maximum de structures scolaires, pour rendre obligatoire l'école et rendre l'école gratuite pour que même les enfants pauvres puissent aller à l'école.
L'année dernière, l'élection présidentielle a été marquée par un certain nombre de violences. L'opposition a d'ailleurs boycotté le scrutin. Comment pourrions-nous aujourd'hui définir l'état du processus politique dans le pays?
Le pays a une certaine fragilité du fait que les gouvernements n'ont peut-être pas la préparation voulue et donc c'est difficile de collaborer avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et c'est peut-être pour cela que l'opposition, qui n'est pas seulement composée de Tutsis, a boycotté. Mais c'est peut-être pas une décision sage parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les Burundais doivent se tenir la main, ceux qui sont mieux préparés et dans ceux qui sont moins préparés, pour que ce pays puisse retrouver une paix stable et un développement harmonieux.
Le pays est encore actuellement en phase de développement après une phase de post-conflit. Les traces de la guerre civile qui a duré 13 années, ces traces sont encore très présentes.
On voit bien qu'il y a eu une guerre, il y a eu des antagonismes entre ethnies. Mais je peux dire quand même qu'il y a un grand effort qui a été fait et je crois que les évêques ont donné le ton parce qu'ils sont vraiment un modèle, un exemple où évêque Hutu et évêque Tutsi ne parlent que d'une seule voix. Et je pense que cela peut progressivement contribuer à effacer le passé qui a été un passé douloureux, beaucoup de destructions, pas seulement physiques mais également des destructions humaines.
Dans quelle mesure aujourd'hui cette Église peut-elle œuvrer en faveur de la paix, de la pacification? On sait que les violences sont encore aujourd'hui très présentes dans le pays. Quel est ce travail qui peut être fait?
Lorsque j'étais là-bas, le président m'a dit qu'il voudrait impliquer l'Église dans un forum appelé Vérité et Réconciliation, où l'Église jouerait un rôle important, de première importance même. Le président a bien vu l'importance de l'Église dans la société burundaise aujourd'hui, voyant la manière dont l'Église travaille, non seulement pour l'éducation, pour la santé, où tout le monde est soigné, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion. Et donc, je pense que l'Église a aujourd'hui un atout pour contribuer à l'unification du pays et à la paix et à la réconciliation.
Et concernant les liens qui peuvent être établis avec le Saint-Siège?
Le gouvernement burundais envisage de signer des accords cadres avec le Saint-Siège et avec beaucoup de joie, le président m'a dit, mais écoutez, attendez-moi, je pense dans 2 ou 3 mois, cet accord sera finalisé et nous pourrons donc signer cet accord qui sera vraiment une garantie juridique et ça permettra un engagement de l'Église au niveau scolaire, au niveau sanitaire, mais également au niveau du développement intégral du pays.